Morning Edition from NPR News.
Même si qui s'invite de house.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, vous allez faire connaissance avec Negar, qui depuis Kaboul n'a plus d'autre horizon que sa cuisine. Vous allez rencontrer Wajia, qui avait une émission de radio à Kunduz et bataille désormais comme elle le peut. Vous irez au mariage du cousin de Raha et vous vivrez presque en même temps qu'elle ce qui s'y est passé. Vous entendrez Mursal, qui est ici en France, en sécurité, mais derrière elle, elle a laissé ses deux enfants. Chacune de ces femmes n'a même pas 30 ans. Elles sont la réalité d'un pays sonné où des destins ont basculé en une seule nuit. Où on n'a pas le temps de réfléchir, il faut partir ou se cacher parce que c'est sauver sa peau. Partager ces instants de leur vie avec nous, c'est prendre un vrai risque. Pensez-y, nous y pensons tous en les écoutant. Et les écouter, c'est donc bien le minimum. Le monde est vaste, il s'est refermé sur l'Afghanistan et sur les femmes afghanes. Bonsoir à tous.
Fabienne Sintès. Hashtag avec les Afghanes.
I didn't leave Afghanistan.
Je n'ai pas pu quitter l'Afghanistan. Je vis toujours à Kaboul parce qu'on ne connaissait personne, aucune organisation qui puisse nous aider comme ceux qui travaillaient pour les forces qui avaient libéré Kaboul et l'Afghanistan. Eux ont pu être évacués vers l'Amérique, le Royaume-Uni ou la France. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer en Afghanistan. On ne sait pas quoi faire aujourd'hui. On se contente de rester chez nous, mais on est très inquiet. Et on ne sait pas quoi faire. Et ces gens qui s'appellent talibans, que dire à leur sujet? Par où commencer? Ils ne sont pas humains. Ils ne peuvent jouer aucun rôle. On les connaît déjà, on les a vus à l'œuvre. Mes parents, mon père, ma mère, ma grande sœur, mon grand frère et mes amis plus âgés. Ils ont déjà connu le régime taliban avant. Et ils ont vu les résultats. Les talibans sont bourrés de problèmes. Ils ont des problèmes avec la sexualité, avec la culture, avec la littérature. Alors, quel genre de gouvernement peuvent-ils former? Comment pourraient-ils être de bons dirigeants? Et pourquoi devrions-nous les suivre? Nous avons perdu nos rêves et aujourd'hui, on se croit vivant. Mais on ne vit plus, madame. Le monde est si vaste, si ouvert. Mais maintenant, notre monde se limite au foyer. On est cloîtré chez nous, entre la chambre, le salon, la cuisine. J'ai l'impression d'être morte. J'ai cessé de vivre. Je veux dire à tous ceux qui m'entendent, si vous croyez en la liberté, en l'humanité, au rôle des femmes dans le monde, aidez-nous.
Je voudrais préciser que Negar est Hazara, une minorité ethnique particulièrement visée par les talibans, notamment parce que les Hazara sont chiites, donc femme Hazara, activiste, triple peine pour Negar. C'est Valérie Crova qui a recueilli ces mots. Laissez-moi vous présenter ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Mursal, on va prendre le temps de vous entendre Mursal. Vous êtes arrivé en France avec le fracas du retour des talibans. Vous avez laissé derrière vous tout ce que vous aviez. Quand je dis tout, vous avez aussi laissé vos enfants. Bien sûr, on y viendra. Bonsoir Ayam Suro. Merci beaucoup d'être avec nous. On va passer ces deux heures avec vous. Vous avez créé l'association Pierre Claver. C'est une école qui vient en aide aux réfugiés. Vous y apprenez le français, vous y apprenez la France aussi, et aussi d'autres choses. Pierre Aski, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
On ne vous présente pas sur France Inter. Pierre, et merci beaucoup d'être là aussi. Mursal, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'était il n'y a pas si longtemps ici, à la Maison de la Radio, naïvement, moi je vous ai dit, je comprends bien que cette situation doit être incroyablement difficile pour vous, partir en pleine nuit, tout laisser. Et vous m'avez répondu non, pas du tout. On ne peut pas savoir combien c'est difficile. On ne peut pas imaginer ce que nous sommes en train de vivre maintenant.
About the feelings and how difficult it is, no one can really feel the way that
confié à vous. Et c'est vrai, personne ne peut se mettre à notre place. On ne peut pas vraiment s'imaginer ce qu'on vit.
When we arrive here, always everybody said, we can understand you, we can feel you.
Tout le monde a voulu nous accueillir gentiment, disant, mais oui, on vous comprend, on imagine ce que vous traversez.
No one can feel and understand.
Mais vraiment, je crois que personne ne peut réellement se mettre à notre place et savoir nos souffrances.
Leaving everything, everyone behind.
Tout quitter derrière soi.
Save your own life.
Uniquement pour sauver sa peau.
You feel pain in your
c'est très difficile.
Je
sentais comme une plaie dans mon cœur en pensant à tous ceux qui sont restés derrière, ma famille, mes enfants, tout ce que j'avais réalisé déjà dans mon pays. Maintenant, je n'ai plus rien. On m'appelle une réfugiée. C'est extrêmement douloureux. Mais pour mon pays, pour tous les Afghans, pour toutes les femmes afghanes, je suis là ici pour elles.
Quelles nouvelles vous avez pu quand même avoir de votre famille ces derniers temps? Est-ce que vous avez pu leur parler au téléphone aussi régulièrement que possible désormais, au moins ça.
I'm in touch with my family. We talk with each other.
Je suis en contact avec mes proches, avec ma famille. On se parle par téléphone uniquement, bien sûr. Mais au moins, on peut s'entendre. J'ai pu leur dire, oui, je suis en sécurité. Eux, j'espère qu'ils sont en sécurité. Bon, peut-être qu'ils sont en sécurité physiquement, comme moi ici, mais il y a aussi le côté santé mentale, psychologique. Et là, tout le monde est en danger. Tout le monde est exposé. Tant sur le plan physique, mental, tout le monde est aux mains finalement des talibans et de leur gouvernement.
In Afghanistan, there's nothing good news.
Donc les nouvelles, bien sûr, sont mauvaises. Ma famille me raconte ce qui se passe là-bas, mais c'est ce qu'on attendait. Les filles ne peuvent plus aller à l'école ou à l'université. Les agences bancaires sont fermées. Beaucoup d'écoles et d'établissements d'enseignement aussi sont fermés. Non, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Ayam Suro, vous la connaissez bien, Mursal. Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle dit un peu, mais qu'on entend, c'est que toutes ces femmes qui arrivent, qui sont toutes extrêmement jeunes, sont effectivement dans un état de santé mentale extrêmement affaibli. Ce sont des femmes qui sont très courageuses, elles le prouvent. Mais cette difficulté, effectivement, on ne la mesure pas, on ne mesure pas ce que ça veut dire. Et comment vous, notamment, vous les récupérez, ces femmes-là?
Je crois que Mursal a très bien décrit en négatif, en creux. Mmh. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas ressentir. Elle a décrit en creux l'immense détresse et l'immense souffrance des Afghans, notamment ceux qui ont été évacués, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de s'en aller. Je crois que ça leur est presque insupportable d'entendre les gens leur dire « comme tu as de la chance », parce qu'ils pensent à ceux qu'ils ont laissés. Nous avons une expérience un peu différente parce que Pierre Claver existe depuis 2008 et accueille depuis 2008 continuellement des réfugiés afghans. Et en fait, bien davantage entre 2008 et le 15 août 2021 que depuis le 15 août, où on a quelques-uns qui ont été évacués. Et donc nous avons une image un peu différente. Nous n'avons pas l'image d'un pays qui était en train de se réformer de manière formidable et qui tout d'un coup a collapsé à l'arrivée des talibans. Nous avons plutôt l'image d'un pays qui a été quitté par des millions d'Afghans pendant que nous soutenions son régime. Et que nous soutenions son régime d'une manière qui a renforcé plutôt les talibans plutôt qu'il ne les a anéantis. Et l'arrivée de ces personnes est encore plus triste. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'antagonisme entre ceux qui sont partis avant et ceux qui viennent arriver maintenant. Mais elle rend les choses plus tristes parce que on ne savait pas trop bien pourquoi les demandeurs d'asile venaient. Mm-hmm. Ils sont devenus du jour au lendemain des réfugiés et ils ont été rejoints par ceux qui avaient été optimistes.
Est-ce qu'il y a peut-être une différence de génération, en fait? Cette génération, celle de Mursal, celle de toutes les femmes qu'on va écouter, de beaucoup d'entre elles, c'est peut-être une génération qui a cru, parce qu'ils ont 23, 24, 25 ans, qu'un certain nombre de choses étaient acquises. Ou est-ce que, encore, là, c'est une idée qu'on se fait, nous, en fait, de l'Afghanistan, et que même cette génération sentait bien qu'il n'y avait rien d'acquis?
Non, vraiment, je ne crois pas qu'elle ait été naïve. Ce sont des personnes, moi j'ai parlé, je ne connais pas bien Mursal, mais j'ai eu quelques conversations avec elle. C'est une femme qui est loin d'être une bourgeoise de Kaboul. Elle a sillonné l'intégralité du territoire dans des endroits qui n'étaient pas sous la protection de nos forces militaires. Elle l'a sillonné à la recherche d'histoires de femmes afghanes dans les régions rurales, dans les régions pauvres, etc., dont elle a recueilli les histoires. C'est une jeune femme, elle a 27 ans, c'est une jeune femme exceptionnelle qui, je ne crois, ne pêche pas du tout par naïveté.
Non.
Sa propre histoire personnelle le montre. Et non, je ne crois pas qu'elle ait été naïve. En revanche, je n'aime pas que l'on dise qu'on est revenu 20 ans en arrière. Je n'aime pas ça du tout, parce que l'existence de Mursal et de toute sa génération, de tous ces hommes et femmes qui ont 20 ans, qui nous parlent en anglais, qui en effet nourrissent de l'espoir, c'est douloureux l'espoir, eh bien c'est le produit de notre présence en Afghanistan.
Mursal, pendant qu'on vous fait la traduction de ce que dit Ayam Suro, et pour rebondir sur ce que dit Ayam, qu'est-ce que vous saviez, vous, en grandissant? Qu'est-ce que vous disiez? Jusqu'à quel point saviez-vous et aviez-vous anticipé sur le fait que l'équilibre en Afghanistan était extrêmement fragile et que ce qui se passe là pouvait en effet se produire?
Of what could happen soon, or did you think it was all well? About now?
Before you left, before the Taliban came back.
Before the Taliban, we were working for our country.
Avant le retour des talibans, on avait l'impression, nous, la nouvelle génération, de travailler de vrai pour notre pays. On était plein d'espoir, on avait des grands rêves pour notre pays. On pensait que ça irait bien, que notre pays s'ouvrirait, qu'on arriverait à la parité, l'égalité entre les sexes, que en matière d'éducation, sur le plan économique, ça irait bien. Mais depuis le retour des talibans, on n'a plus rien, tout s'est effondré. Tout est arrêté, suspendu, et il n'y a plus d'espoir pour l'avenir. Tout le monde est à l'arrêt et se demande ce qui va se passer maintenant. On est menacé par un effondrement économique. Du côté de l'éducation, vous savez ce qui se passe. Donc, tout le monde est à l'arrêt, en suspens, et attend ce qui va se passer.
Pierre Aski, il y a quelque chose de très occidental, en effet, à imaginer qu'on est passé de la lumière à la nuit, que comme si on n'avait pas vu non plus ce qu'était aussi la réalité de l'Afghanistan, y compris ces 20 dernières années.
Oui, mais ce qui est bouleversant, je trouve, dans tous les témoignages qu'on entend depuis ce matin sur cette antenne, c'est la collision entre les analyses que nous pouvons faire sur les raisons de l'échec de la guerre, sur la corruption, sur l'État, etc. Et puis, la réalité humaine, et comme disait Ayam Suro tout à l'heure, pendant ces 20 ans, il s'est passé des choses, et ces choses, on les a devant nous aujourd'hui, le sol s'est dérobé sous leurs pieds sans qu'elles y soient pour grand chose. Et il y a quelque chose d'effrayant dans cette réalité et de voir à quel point la collision entre l'humain et la géopolitique peut être désastreuse.
Ayam Suro, je voyais réagir à ce que disait Pierre.
Je voulais compléter ce que disait Pierre Aski, parce que durant 20 ans, nous avons par exemple parlé beaucoup du droit des femmes, avec cette espèce de mot neutre que nous appliquons par exemple à nos propres pays. En France, aux États-Unis, les femmes ont manifesté hier pour le droit à l'avortement. Le droit des femmes, c'est pour nous la parité, l'égalité avec les hommes, etc. Et je trouve que justement, ces femmes afghanes qui sont nées en Afghanistan, qui sont des femmes éduquées, compétentes, etc., ont une notion très différente. Et elles peuvent nous éclairer sur le contexte culturel dans lequel nous voulons que la discrimination contre les femmes cesse, par exemple, et elle ne peut pas être faite comme nous croyons qu'elle peut être faite. Vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que elle parle de la manière dont les petites filles grandissent, par exemple, ou de la mortalité maternelle, dont nous avons les chiffres, mais nous ne savons pas pourquoi, de l'accès aux soins. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas soignées. par des hommes, par exemple. Donc elles ne sont pas soignées du tout, elles ne vont pas, seuls les petits garçons sont soignés à l'hôpital. Donc, depuis que je connais des femmes afghanes, j'ai une idée plus juste du contexte culturel beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, qui est sans rapport avec ni les 40 années de violence et de guerre, ni le régime des talibans, ni la corruption du gouvernement précédent, ni rien, mais tout un contexte extrêmement compliqué. Et elles vont, je suis sûre qu'elles vont nous aider à le comprendre et à gagner.
Et est-ce que vous diriez, et y compris depuis le point de vue d'une association comme la vôtre, qu'on a pris, nous, ici en France, dans les pays européens, mais nous en France aussi, la mesure, notamment la mesure que les femmes sont potentiellement les premières victimes de ces talibans-là, version 2021, et que donc l'accueil aussi est différent, que la manière de les recevoir est différent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie, pardon de le dire comme ça, cette vague-là, de celle que vous avez pu vivre, vous, ces 15 dernières années, y compris par le biais de votre association?
De la part de l'État...
Est-ce que l'accueil dans ces circonstances-là est très différent, en fait?
De la part du gouvernement français, il l'a sûrement été.
Ouais.
Parce que ces personnes ont été quand même évacuées par les autorités françaises. Ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Vous voyez, voilà, on est allé les prendre, les mettre dans les avions militaires et les amener. Et donc, je trouve, moi, que le traitement de ces personnes évacuées s'est fait avec énormément de... Je vous dirais presque de courtoisie, en fait, et de courtoisie, quasiment comme des VIP de l'asile. Mmh. Et ça n'a évidemment pas été le cas pour les autres. Mmh. Il n'y a pas à s'en indigner, c'est comme ça. Et puis voilà, et ils ont été arrachés d'une manière extrêmement brutale, extrêmement brutale. Et je crois qu'on a fait tout pour que ici ils se sentent rapidement protégés. J'espère qu'ils se sentent rapidement protégés. Mais voilà, la réponse à votre question.
Est-ce que vous connaissez, Mursa, cette chanteuse qui s'appelle Ella Sorour?
Ella Sorour.
Je vous pose la question parce que c'est une femme qui a dû fuir, c'était avant, parce qu'elle participait à une émission qui s'appelle Afghan Star, et que pour ses prises de position, elle a dû s'enfuir, elle s'est enfuie plus tôt, et voici ce que ça donne.
Je travaillais comme journaliste et reporter pour une radio locale dans la province de Kunduz. Quand les talibans ont été chassés du pouvoir une première fois, il y a une vingtaine d'années, nous nous sommes battus pour les droits des femmes. Nous avons joué un rôle proactif dans le développement des droits de la femme. À la radio, j'animais une émission qui s'appelait « Femmes et société », où l'on parlait du droit des femmes au travail, à l'éducation, à la liberté. Des auditrices nous appelaient pour confier leurs problèmes. Il s'agissait souvent de violences domestiques, de mariages forcés, de mariages consanguins. Notre rôle était de signaler ces problèmes auprès des organismes compétents pour aider ces femmes. Mais depuis la prise du pouvoir par les talibans, les filles et les jeunes filles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Celles qui vont à l'université sont obligées de porter le hijab. Et moi, je ne peux plus travailler. Les talibans interdisent aux femmes de sortir de chez elles sans être accompagnées d'un homme, d'un chaperon. Ils leur interdisent de montrer leur peau en public. La vie en Afghanistan, et en particulier à Kunduz, est devenue comme une prison. Nous sommes prisonnières, comme des oiseaux en cage, qui ne peuvent plus voler. Quand les talibans se sont emparés de Kunduz, on s'est enfui à Kaboul. Mais malheureusement, Kaboul est tombé au bout d'une semaine. Alors on a essayé de quitter le pays. On s'est rendu à l'aéroport international de Kaboul. Mais il y avait une telle cohue. On n'a jamais pu entrer. Ensuite, j'ai entendu dire que le gouvernement français acceptait des réfugiés. Mon frère s'est chargé des démarches. Il a appelé partout pour demander de l'aide. Mais comme on n'a pas eu de réponse, j'ai décidé de continuer mon combat, de ne pas renoncer, de ne pas me résigner à vivre sous le sinistre régime des talibans. Tous les jours, je vois ce qu'ils font, leurs crimes, ils n'ont pas changé, ils ne respectent pas les droits des femmes, ni ceux des hommes. Ce sont des menteurs. Ce qu'ils proclament dans les médias est le contraire de la réalité. Les femmes qui revendiquent leurs droits et la justice sont réduites au silence. Les talibans les discriminent, les maltraitent, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Face à ce quotidien, la seule issue, c'est de se réfugier dans un autre pays. Ici, ma famille et moi sommes en danger.
Avec les Afghans, journée spéciale sur France Inter.
Mursal, je vous regardais en écoutant le témoignage de Wajia, qui restait donc à Kunduz, qui reste contrainte et forcée. Tout ce qu'elle nous dit, ne croyez pas ce que les talibans vous disent, ne vous laissez pas avoir par ce que les talibans vous disent. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans chacun des témoignages sur l'antenne de France Inter depuis ce matin, et depuis, de toute façon, que vous êtes toutes ici en France.
Yes, for sure. I want to tell this. No one leave home unless home is the mouth of a shark. And today, my country is the mouth of a shark.
On dit que, vous savez, personne ne quitte sa maison sauf si elle se transforme en une gueule de requin. Et maintenant, mon pays, c'est devenu une gueule de requin. Les talibans, en effet, se contredisent, ils mentent, ils montrent un certain visage, ils veulent faire croire à la communauté internationale qu'ils ont changé. Mais chaque semaine, ils font une nouvelle annonce. On en rirait presque, c'est comme une caricature. Ils ont, par exemple, décrété que les jeunes filles ne pouvaient pas utiliser de téléphone, de mobile. Ensuite, que les femmes ne pouvaient pas se rendre à l'école et puis qu'elles ne pouvaient pas trouver une éducation, s'éduquer ou enseigner, ni travailler. Donc voilà, quoi qu'ils affichent devant la communauté internationale, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont tué tellement de gens au nom de pour leur religion, parce qu'ils étaient de tel groupe ethnique ou de telle nationalité, ou qu'ils avaient telle langue ou de et les femmes, bien évidemment, cause du genre.
Et le lendemain, ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, c'est de toute façon cette génération-là, cette génération d'une vingtaine d'années qui a été élevée différemment, on n'en veut pas, cette génération ne nous intéresse pas.
Yes, once they came to Kabul, they announced you should not leave your country. We need you in your country.
Oui, ils nous ont dit au début, ne quittez pas le pays. On a besoin de vos cerveaux. Vous êtes éduqués. On a besoin de vous pour le pays. Mais là, tout récemment, ils viennent d'annoncer que toutes les personnes qui ont été à l'université ces 20 dernières années, ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont pas besoin d'eux. Et ils attendent une nouvelle génération qui, elle, aura acquis des connaissances islamique qui, elle, serait utile pour le pays, pense-t-il.
Ayam Suro, comment être vigilant pour une jeune femme comme Wajia? On a entendu que ce serait évidemment difficile pour elle, son métier. Elle faisait de la radio, elle ne peut plus,
oui,
évidemment...
Oui, c'est difficile pour beaucoup d'autres Wajia et pour beaucoup d'autres personnes.
Ça, c'est clair.
C'est, vous voulez, j'essaye, c'est très difficile ce qui nous arrive maintenant, à nous. la situation où nous nous trouvons est difficile parce que c'est l'histoire en marche et nous avons totalement perdu l'habitude de considérer que dans d'autres pays que l'Europe, l'histoire pouvait se faire. Et nous n'avons pas d'autre solution que l'évacuation. Mm-hmm. C'est étonnant. L'histoire est en train de se faire et elle va se faire douloureusement. Et on ne peut pas évacuer tout le monde. Sarah Daniel me disait l'autre jour qu'elle a été en Afghanistan et que 30 millions d'Afghans voulaient sortir. Mm-hmm. Vous vous rendez compte? Donc ça n'a pas de sens. Ce que nous pouvons faire, nous, ici en France, c'est d'abord ce que nous venons de faire. Vous me demandiez la différence entre les évacués et les réfugiés qui sont venus avant eux. Mm-hmm. La France a donné l'asile et a retrouvé le sens de l'asile politique, c'est-à-dire qu'elle a retiré d'Afghanistan toutes les personnes qui pouvaient, si elles vivaient dans un pays libre comme la France, continuaient à assurer leur travail de combat pour la liberté, la dignité, l'égalité, les lumières, les arts, les lettres, etc. Et donc ça, la France, pas seulement la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays, mais moi je parle de la France, l'a déjà fait. C'est-à-dire donner l'asile à ceux qui peuvent porter le flambeau de ce combat ailleurs, puisque chez eux ça n'est pas possible. Ça, c'est fait. Mm-hmm. L'autre chose, c'est d'entendre l'appel à l'aide. La première personne que nous avons entendue ici, c'est Negar.
Absolument.
N'est-ce pas? Et donc, nous pouvons faire des tables rondes pour nous indigner et pleurer sur le sort des femmes afghanes et de l'Afghanistan dans son ensemble autant de fois qu'on veut. Encore faut-il entendre cet appel à l'aide et le considérer avec sérieux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de femmes qui sont dans une situation ordinaire, de femmes comme les femmes souffrent dans tous les pays du monde. Nous, l'Afghanistan est le pire pays du monde pour être une femme. Les femmes ne sont pas dans le cercle des droits humains. C'est pas qu'elles ne sont pas légales des hommes, elles ne sont pas dans le cercle. Elles n'ont pas de droits humains du tout. Nous le savons. Nous savons le péril dans lequel elles sont. Nous devons faire quelque chose, sinon c'est tout simplement une non-assistance à personne en danger. Et il n'y a rien, aucune excuse, ni le relativisme culturel, leur culture est différente de la nôtre, ni l'ingérence politique et la complexité des relations internationales, ne viendra jamais excuser l'indifférence où nous serions devant cet appel à l'aide qui a été prononcé devant nous.
Et qu'elles prononcent toutes, d'ailleurs. Pierre Aski, c'est vers vous que je me tourne dans les propos du président de la République. Ce matin même, sur France Inter, on a bien entendu, je suis en train de chercher les mots qu'il a prononcés, il y aura des conditions, dit-il, mais ce qu'on sent surtout, c'est la terrible impuissance, et qu'il a même exprimé, clairement, c'est vraiment ce qu'on a surtout entendu ce matin.
Oui, c'est l'impuissance de la communauté internationale, si tant est que ce mot ait encore un sens, parce que les talibans ont gagné cette guerre, ils sont aujourd'hui au pouvoir à Kaboul, et nous n'y sommes plus. Et là, les capacités d'aider des jeunes femmes comme celles dont on parle sont extrêmement faibles. Et donc aujourd'hui, oui, effectivement, on compense en les accueillant bien à l'extérieur lorsqu'elles y sont, parce que je pense qu'il y a une culpabilité globale de ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais que les moyens d'intervention, de pression, les talibans sont évidemment imperméables à nos pressions. Et même la question de l'argent, puisqu'il y a beaucoup d'argent afghan qui est gelé à l'extérieur, l'aide a été interrompue, l'aide budgétaire a été interrompue, il y a de l'aide humanitaire qui continue, mais ça n'a pas de prise sur eux, parce qu'ils sont prêts à vivre dans un pays en ruine.
Une toute petite chose, Pierre Aski, si vous le voulez bien, avec votre autre casquette de président de Reporters sans frontières. Elle est journaliste, Wajia, elle interviewait des gens, des femmes dans sa radio.
Mais c'est ça qui est terrible aussi, c'est que parmi les professions qui ont été ouvertes, conquises par les femmes depuis 20 ans, il y a le journalisme. On comptait 1471 femmes journalistes en Afghanistan sur 12 000 journalistes recensés. Et elles sont en train de disparaître des antennes, des écrans de télévision, de la presse. On a reçu à Reporters sans frontières, il y a 15 jours, un appel signé par une centaine de journalistes afghans, à l'intérieur ou à l'extérieur, disant « Aidez-nous à ne pas... à ce que la lumière ne s'éteigne pas sur le journalisme afghan. » On peut l'entendre dans plein d'autres milieux, mais celui-là, cet appel est particulier.
Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on aille faire un tour à Kaboul, à la rencontre de ces femmes qui, les premières, ont essayé de manifester, qui sont sorties pour défier les talibans. C'était vraiment juste après leur arrivée. Le reportage est signé Wilson Fash.
Il est 10h30 du matin et nous sommes le mardi 17 août à Kaboul. Les talibans se sont emparés de la capitale il y a à peine 2 jours. 5 jeunes afghanes, armées de pancartes, arrivent alors à bord d'un taxi dans le quartier des ambassades.
Alors les filles, on pense quoi de l'émirat islamique ?
Elles rient, elles sourient, elles sont nerveuses aussi. Taïba, Soudaba, Farida, Razia et Zarifa ont toutes entre 24 et 26 ans et elles s'apprêtent à mener ce qui est sans doute la toute première manifestation contre le nouveau pouvoir taliban. Leur slogan attire rapidement une foule de badauds. Les talibans, eux, sont décontenancés. Ils ne savent pas comment réagir et les laissent faire. Taïba prend alors la parole.
Où est la place des femmes afghanes dans le futur gouvernement? Ne bâillonnez pas nos voix. Les femmes représentent 50% de la société. Les femmes afghanes existent. S'il vous plaît, ne bâillonnez pas nos voix.
Lorsqu'elles repartent 2 heures plus tard, elles ont marqué l'histoire. C'est la première fois que des Afghanes manifestent publiquement leur opposition au nouveau régime taliban. Bientôt, les manifestations se multiplient à travers le pays. Et quand ces 5 jeunes femmes décident de retourner dans la rue le 4 septembre, elles sont désormais accompagnées de dizaines d'autres Afghanes. Mais cette fois-ci, les talibans n'hésitent pas à réprimer ce rassemblement dans le sang. Khaleda, 20 ans, a encore le visage tuméfié et le nez couvert d'un pansement.
J'ai été expressément visée. Je me tenais seule alors que j'étais en train de donner une interview. Les autres filles avaient déjà été dispersées. Un taliban s'est approché de moi et m'a frappé au visage avec la crosse de son fusil. Mon nez a été brisé sur le cou. Un commerçant m'a alors caché dans son magasin jusqu'à ce que les talibans partent.
3 jours plus tard, devant l'ambassade du Pakistan, une centaine de femmes sont dispersées par autant de talibans, armés jusqu'aux dents, qui tirent des coups de sommation en l'air. Une jeune manifestante, à peine majeure, tient bon devant un commandant taliban qui la menace.
On ne veut pas que les journalistes fassent des interviews ici.
Mon frère, écoute-moi.
Tais-toi, ne leur parle pas.
Mon frère, non, ne me touche pas, ne m'approche pas. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Ayez du respect pour nos droits.
Tu n'es qu'une gangster.
Non, c'est vous qui n'êtes qu'un gang, pas moi. On ne veut pas de problème, on est simplement ici pour faire respecter nos droits et notre honneur.
Depuis lors, les manifestations ont été formellement interdites par les talibans. Farida, qui était déjà dans la rue le 17 août, promet pourtant que leur combat ne s'arrêtera pas là.
Tant que c'est possible, nous allons continuer notre combat et nous refuserons de rester silencieuses. Si vraiment il devient impossible de se mobiliser pour nos droits ici, en Afghanistan, alors nous irons dans un pays tiers et nous continuerons à nous battre depuis là-bas.
Taïba, Farida, Khaleda et les autres font toutes le même constat. En 20 ans, les talibans n'ont peut-être pas changé. Mais nous, femmes afghanes, nous avons changé. Nous sommes éduquées, disent-elles, nous sommes ambitieuses et nous n'avons pas peur.
Ce qu'on entendait, c'est la Burqa Band, un groupe de femmes, seulement de femmes, un album qui commence à dater maintenant, qui date de 2002, mais qui nous dit quand même des choses. Mursal, on a entendu dans ce reportage des jeunes femmes dire « on est ambitieuses, on n'a pas peur. Et bien sûr que c'est un discours qu'on a entendu à Kaboul. Et bien sûr que c'est aussi une forme de discours qu'on a évidemment envie d'entendre. Moi, je voudrais savoir si vous pensez vraiment que ces voix vont rester entendues. Vous disiez tout à l'heure, mais attendez, les talibans n'ont pas gagné la guerre. Est-ce que vous le pensez vraiment?
Oui,
ça me rend très fière, les copines qu'on vient d'entendre. Elles osent se dresser contre les talibans. Elles se battent pour l'égalité entre les sexes, pour jouer leur rôle pleinement dans la société afghane. Mais j'ai peur que personne ne les entende vraiment parce que le monde reste silencieux. Quand elles sont sorties manifester dans les rues,
Women lay their photos around the world on their hands. Who see that? Angela Merkel
portait,
and lots of another women later in the world. But they're all
des masques comme les femmes célèbres dans le monde, les dirigeantes.
Not, the Afghan women are not their priority.
Mais on voit bien qu'elles ne sont pas entendues, même par les grandes dirigeantes occidentales. Donc je trouve que c'est pas juste de dire que les talibans ont gagné la guerre. C'est le gouvernement précédent qui a laissé une vacance du pouvoir dans laquelle ils se sont infiltrés. Nous, on n'a jamais voulu de guerre et on veut la paix dans notre pays. C'est impossible d'imaginer que toute une population soit privée d'une vie normale dans leur pays, qu'il y ait ces antagonismes entre les religions. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la communauté internationale continue de mettre la pression sur les talibans pour qu'ils acceptent d'organiser des élections. Si les talibans ont les bonnes réponses, si ils ont raison dans leur projet, eh bien, il ne faudrait pas qu'ils aient peur et il faudrait qu'ils organisent des élections. Je crois qu'ils veulent juste s'emparer et conserver le pouvoir. C'est un groupe terroriste. Ils ont peur d'ailleurs de ce que peuvent faire les pays voisins contre eux. Et je crois qu'il faut vraiment que la communauté internationale ne relâche pas la pression, les pousser à organiser des élections. À ce moment-là, si la majorité des Afghans vote pour eux, eh bien, ça veut dire qu'ils sont légitimes. Mais par contre, tuer la moitié de son peuple, ça ne les rend pas légitimes.
Ayam Suro, est-ce que c'est, vous avez le sentiment, vous, que c'est possible de travailler de l'intérieur désormais de cet Afghanistan-là,
comme bien, sûr, bien sûr. Les talibans n'ont pas gagné la guerre. Bon, personne ne l'a livré encore. Quand c'est une guerre, ils la perdent en 3 semaines. Mais la guerre qui vient, c'est une guerre, à mon avis, plus lente, patiente, intelligente. Mm-hmm. Elle sera livrée par Mursal, par Negar, par tous les Afghans qui sont à l'étranger et qui sont en contact permanent, quotidien, 24 heures sur 24, avec leurs frères, leurs cousins, leurs neveux. C'est plus du tout le même monde, vous comprenez, que 2001. Mm-hmm. Et donc il y a un Afghanistan
et
en
ont
dehors
raison,
de l'Afghanistan.
Elles ont raison dans le reportage, par ailleurs, il y a des réseaux sociaux,
absolument,
il y a Internet et il y a effectivement un extérieur.
Absolument. Donc c'est une guerre intelligente, maintenant, qui va être menée. Et je suis sûre qu'elle sera gagnée.
Ben, c'est un peu sur cette phrase optimiste que j'ai envie qu'on termine. Je voudrais quand même vous faire écouter ce qui suit. La jeune femme qui vient s'appelle Raa. Nous sommes au mariage de sa cousine, tout simplement. C'est juste après le retour des talibans. Vous allez entendre, ça commence par de la musique, mais ça se finit très différemment. Écoutez.
Ça, c'est une chanson arabe qui joue dans l'hôtel. Ça fait beaucoup de bruit. Et alors il y a 4 filles qui ont préparé une danse ensemble. Ces filles, ce sont les sœurs et les cousines du marié. Et maintenant vous entendez le dhol. Ce sont des tambours traditionnels d'Afghanistan. Et il y a une danse spéciale pour accompagner cet instrument. Et vous entendez là la musique. Et là ça s'accélère. Tout le monde est en train de danser ici. Et moi, je vais y aller dans 5 minutes, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la musique a été arrêtée. On a cru d'abord que c'était normal, peut-être le moment de passer à table. Et puis, on a entendu du bruit qui venait du côté des hommes. Ils disaient que les talibans étaient entrés dans l'hôtel pour un contrôle. Tout le monde avait très très peur, surtout les femmes. Et moi aussi. On cherchait toutes désespérément des écharpes pour se couvrir la tête. Qu'est-ce qui arriverait si les talibans venaient du côté des femmes? Et puis au bout de 10 minutes, les talibans sont partis, sans venir de notre côté. Et quand ils sont partis, on a recommencé à danser. Mais même en ce jour de fête, à cause d'eux, on a ressenti de la tristesse et de la peur. Et là, on est arrivé à la maison du marié. La maison de ma cousine sera ici maintenant. Et on lance des feux d'artifice pour souhaiter du bonheur au nouveau marié.
Sarah elle-même qui a envoyé cet extrait du mariage de sa cousine à Caroline Gillet. Elle le fait avec son téléphone et elle le refera très régulièrement. Et grâce à Caroline, vous pourrez l'entendre tous les dimanches à 7h24. On va la suivre sur France Inter, y compris dans Un jour dans le monde. Je voulais vraiment vous le dire rapidement, Ayam Suro, on entend de la peur, mais on entend de la liberté, on entend de l'inconscience, on entend tout ça à la fois chez la jeune Ra.
Absolument, et il me paraît tout à fait impossible que... c'est les talibans qui n'aiment pas la vie, qui n'aiment pas ce qui est beau, qui n'aiment pas ce qui est juste, qui n'aiment pas ce qui est vrai, qui n'aiment pas la vie, gagnent. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est long, c'est douloureux, mais c'est nous qui gagnons.
Est-ce que ça veut dire, Mursal, c'est vous qui aurez le mot de la fin, est-ce que ça veut dire que, bien sûr, vous rentrerez en Afghanistan, bien sûr, il y aura un après, bien sûr que le reste de votre jeune vie pour l'instant, c'est pas ici, c'est en France, c'est bien chez vous dans votre pays?
Oui, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de partir de chez soi. Bien sûr, j'aspire à y retourner. J'aime mon pays. Moi, je ne suis pas venue passer des vacances en France. En fait, on a été exfiltrés, on s'est échappé de justesse pour rester en vie. Et maintenant, je me sens en sécurité. Mais j'ai la responsabilité de travailler pour tout mon pays, pour tout le peuple afghan, pas seulement les femmes. Les femmes sont particulièrement victimes des talibans.
Another religions, another language, another educated people are victims of Taliban.
Et les personnes éduquées également, celles qui parlent des langues étrangères aussi, sont détestées par les talibans. On ne veut pas que la communauté internationale reconnaisse les talibans, ça c'est important. Et j'espère qu'un jour je retournerai vivre et travailler chez moi. Mais je refuserai toujours de travailler pour un gouvernement terroriste tel que l'est le gouvernement Taliban. Jamais. Donc je ne retournerai pas là-bas ni travaillerai dans mon pays tant qu'ils seront en place.
Mursal, on vous souhaite vraiment le meilleur. On vous souhaite de retrouver évidemment vos enfants le plus longtemps possible. On vous souhaite de travailler, de garder cette grande énergie-là. Ayam Suro, vous allez rester avec nous pour la deuxième heure. On va parler d'accueil au téléphone. Sonne dans un instant. Je voudrais quand même vous dire qu'il y a ce soir sur France Inter et au Studio 104 un concert-événement. C'est à partir de 20h. Et vous pouvez encore aller frapper à la porte, si je puis dire, parce qu'il reste des places. Donc venez écoutez les musiques Avnan, venez participer à cette soirée avec nous au studio 104 de la Maison de la Radio à partir de 20h. Allez, à tout de suite.